Écoute le Protelcast, pose-toi, prends ton café. On n'est pas des tarés, c'est juste la CGT. Un groupe bien soudé qui a décidé de t'aider. Et si t'es en galère, tu peux nous contacter. N'hésite pas, fais-le avant d'être déconnecté.
Bonjour, nous nous retrouvons donc sur une spéciale négociation avec surtout celle que vous attendez tous, donc sur la négociation de salaire et temps de travail qui s'est déroulée sur le début mai, qui a abouti effectivement à une signature, mais il n'y a pas que ça, puisque nous sommes très sollicités, nous les délégués syndicaux, sur le sujet ces derniers temps, et nous avons des négociations aussi bien au niveau du groupe, sur des sujets divers et variés qu'on va aborder au cours de cet enregistrement. Donc je suis toujours accompagné de nos très chers, entre guillemets, camarades, Sylvie. Bonjour Sylvie.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
Nous avons aussi Hicham qui est là.
Ouais, je suis là. Bonjour tout le monde.
Nous avons aussi Lionel qui est présent.
Bonjour, bonjour Stéphane, bonjour à tous.
Et nous avons une invitée très spéciale, puisque c'est Annabelle qui vient nous faire une petite visite et pour nous donner son point de vue un petit peu vis-à-vis des centres d'appel, puisqu'elle est sur Marseille, donc à Certicôle.
Eh bien, bonjour à tous, camarades.
Et ça nous permettra de peut-être avoir un petit peu une opinion extérieure de notre futur entre guillemets, camarades, puisque concrètement, nous allons avoir une fusion qui va faire que nous ferons tous partie de la même maison. Donc, c'est toujours intéressant d'avoir des points de vue extérieurs. Allez, on va commencer donc notre petit Protelcast avec la négociation qui vous intéresse le plus, c'est-à-dire celle sur les salaires et le temps de travail. Donc, qui veut prendre la parole ?
Très court. Donc, je rappelle juste l'enveloppe globale de 2026, ça représente 1,74% de la masse salariale de 2025, a été consacrée pour l'augmentation. Donc, les grands traits pour moi, c'était pour les techniciens une augmentation collective qui représente 30 euros bruts par mois pour les salariés ayant moins de 10 ans d'ancienneté, 35 par mois entre 10 et 15 ans, 40 euros bruts par mois au-delà de 15 ans. Le salaire d'entrée à compter de 1er juillet 2026 et sera de 1830 pour les techniciens, c'est bien sûr brut, pour les coordinateurs 2350. Est-ce que ça résume l'enveloppe? Oui. C'est très important. C'est un point à ajouter. Alors, par rapport à ce que je viens d'annoncer, il y a des points de vigilance que j'ai soulevé, c'est-à-dire surtout le niveau de l'augmentation dans le contexte actuel reste insuffisant et les conséquences qu'il peut avoir aussi sur le pouvoir d'achat. Voilà, je vous laisse la parole.
Oui, Cham, j'avais quelque chose à rajouter, c'est-à-dire que je voulais mettre le point sur les salaires d'entrée qui sont très bas et qui vont être bientôt en dessous du SMIC, vu que celui-ci va augmenter, je ne me souviens plus quand, et que du coup, 1er juin, ça y est, ils ont augmenté, et que du coup, on va se retrouver avec des salariés qui vont... pour avoir le SMIC, ils vont être obligés de, ils vont obtenir le SMIC en utilisant la part variable de salaire, ce qui est inadmissible et me semble-t-il contraire à la loi. Mais ça, je laisserai Stéphane développer le sujet. Je voulais dire aussi que les augmentations étaient effectivement bien insuffisantes par rapport aux besoins de l'ensemble des salariés, que comme d'habitude, nous avons une enveloppe de misère et que comme d'habitude, il a fallu qu'on fasse avec les miettes qu'on avait et que du coup, je vous entends, vous n'êtes pas là, mais je vous entends dire, mais purée, ce qu'on va faire avec aussi peu. Donc tout ça, on en a conscience. Comme d'habitude, je sais pas, je trouve pas les mots, mais c'est vrai que c'est assez scandaleux. Ceci étant, pour je pense la dernière année, les salariés ayant de l'ancienneté auront un petit peu plus que les autres, et je pense pas que ça se reproduise d'aussitôt. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Je pense que peut-être je rebondirai plus tard sur ce que tu vas développer, Stéphane.
Alors, pour ne pas répéter tout ce qui a été dit, je vais juste apporter deux, trois petites explications. Donc, il faut savoir que cet accord a été signé le 5 mai 2026, que ça avait été soulevé pendant la négociation le fait qu'il y avait de très fortes chances que le SMIC soit augmenté au 1er juin de par l'inflation que nous avions depuis le début d'année. Il faut savoir que depuis le 1er janvier, nous avions un salaire d'entrée par accord. On parle bien de salaire d'entrée et non pas de salaire minimum, hein, c'est deux choses totalement différentes, était déjà inférieur au SMIC et que l'augmentation que nous avions demandée ne couvre pas les 2,4% d'augmentation du SMIC qui a eu lieu donc dès le 1er juin de cette année. Ça veut dire que notre salaire que nous venons de négocier il y a à peine trois semaines est déjà inférieur au SMIC. Et donc, le petit point que soulevait Sylvie, c'est que notre salaire n'est pas composé que du salaire d'entrée. Il est composé du salaire de base plus de la part variable que vous avez en fonction de des objectifs que vous avez atteints, donc la fameuse prime que vous parlez et que vous calculez dans votre travail. Et légalement, l'employeur, malheureusement, a le droit de considérer que le salaire, c'est l'addition des deux. Et donc, par définition, il est toujours au-dessus du SMIC. Donc, là où il y a quand même quelque chose qui risque de se heurter à la réalité, c'est que quand vous embauchez quelqu'un et que vous leur annoncez des salaires de base qui sont inférieurs à ce que propose le SMIC, c'est franchement pas très attrayant comme employeur. C'est-à-dire que vous dites, bah, si déjà à l'embauche, il n'est pas capable de me donner à minima le SMIC, c'est qu'il y a déjà un problème d'un point de vue rémunération. Alors, c'est vrai que la part variable est très élevée pour tout ce qui est salaire dans les techniciens conseils, mais ça reste quand même quelque chose qui pour nous est anormal. Alors, vous me direz, pourquoi nous avons signé? Ben, c'est parce que c'est un accord. Contrairement, et ça je pense qu'Annabelle viendra nous le préciser tout à l'heure, ce qui se pratique dans les autres entités du groupe, surtout dans les centres d'appel, il est lié à deux choses, il est lié au temps de travail et à la rémunération. Et comme les augmentations qui sont faites, même si elles restent basses, donc on n'a pas parlé de tout ce qui était hors catégorie qu'on avait des techniciens tout à l'heure, c'est-à-dire tout ce qui est encadrement et autres, les augmentations seront en fonction des objectifs et des résultats obtenus, et s'élèveront entre 0,5 et 3% d'augmentation. Donc, ça veut dire que quelqu'un qui a obtenu ses résultats et que son responsable est content de lui, bah, peut obtenir une augmentation qui est significative. Et si, malheureusement, c'est tout l'inverse, et ben, il n'aura même pas de quoi compenser la perte de pouvoir d'achat suite à l'inflation. Donc, ça, c'est toujours des critères, entre guillemets, qui sont difficiles à comprendre pour l'ensemble des salariés, mais on en est conscient, comme le disait Sylvie. Et pourquoi cet accord a été signé? C'est parce que tout simplement, il apportait quelques avancées intéressantes au niveau temps de travail. Donc, qu'est-ce qu'on met dans le temps de travail? C'est tout ce qui va être jour de congé conventionnel. Et là, nous avons obtenu une journée supplémentaire sur les personnes qui se marient ou qui se paxent. Et nous avons obtenu quelque chose qui n'est pas forcément dans l'accord, mais qui en fait partie quand même, c'est-à-dire que suite à notre demande de solutionner une problématique pour les techniciens itinérants qui datait depuis de nombreuses années, c'est-à-dire les déplacements sur les zones peu denses pendant la journée de travail. Et cette partie-là, est quelque chose de, comment dire, important pour de nombreux techniciens, surtout qu'avec l'orientation qui est prise actuellement sur la concentration de certains free proxy et l'augmentation des zones à couvrir par les techniciens itinérants, fait que ces temps de déplacement augmentent. Et donc, mécaniquement, la part variable du salaire baissait parce que vous faisiez moins de rendez-vous puisqu'on passait plus de temps sur la route, sur les 7 heures de travail. Et donc, avec cet avantage, ou du moins cette mise en situation que nous avons pu obtenir, il a été décidé, suite à notre demande, que lorsque les déplacements dépassaient 30 minutes entre deux rendez-vous pendant la journée de travail, une plage d'aménagement serait posée en compensation. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui peut paraître anodin, mais qui peut significativement faire augmenter la part de rémunération variable. Donc après, chacun jugera en fonction de ses situations. Mais si on additionne ça plus la partie d'augmentation qui intéresse les techniciens, on a estimé que ça valait entre guillemets la signature de l'accord, même si, comme on le dit, ben c'est une décision collégiale que nous avons prise. Alors peut-être qu'il y en a qui seront contre, peut-être qu'ils sont favorables, mais la seule et l'unique chose que moi je voudrais préciser, c'est que nous, délégués syndicaux, comme le disait un peu Sylvie tout à l'heure, on fait avec ce qu'on nous propose. Tant que les salariés ne comprendront pas que les vrais moteurs, c'est eux, ben, il y a effectivement impossibilité d'obtenir plus. C'est ce que nous appelons très traditionnellement le rapport de force. C'est-à-dire que tant que nous n'aurons pas, entre guillemets, une cohésion d'équipe et un collectif qui vient faire mettre les points sur la table en disant « non, on refuse », ben forcément, on devra se contenter de miettes, comme le disait Sylvie, par rapport à ce qui nous est proposé. Même si on le rappelle, et ça je pense qu'Annabelle pourra le préciser, de par les chiffres qui nous ont été annoncés, nous avons obtenu en termes d'enveloppe qui nous, à nos yeux, est insuffisante, un montant supérieur à ce qui leur a été proposé. Donc je ne sais pas si Lionel ou si Sylvie, vous aviez des points à rajouter.
Et je Moi, j'ai un point à rajouter.
Et je pense que c'est intéressant. Donc, Hicham, attends deux secondes. De laisser la parole après ensuite à Annabelle, de façon à ce qu'elle nous explique, eux, de leur côté, comment ça se passe.
Donc, non, juste Hicham, pour rajouter. Non, je rajoute juste un point qu'on a oublié sur notre accord. Ce qui est nouveau cette année, c'est une prime appelée prime carburant exceptionnelle d'un montant de forfaitaire de 50 euros. Cette prime, elle est exonérée et octroyé au bénéfice des salariés remplissant certains critères, qui est nouveau cette année.
Tout à fait. Donc ça, c'était une prime qu'on demande depuis au moins 4 ans, qui nous avait été systématiquement refusée, qui est destinée à tous les salariés qui n'ont pas de transport en commun et qui sont obligés d'utiliser leur véhicule personnel pour faire le déplacement de chez eux jusqu'à leur lieu de travail, donc essentiellement en free proxy, puisque les Parisiens ont les transports en commun qui sont pris en charge et tous ceux qui habitent dans les grandes villes peuvent bénéficier de transports en commun. Donc ça, c'était quelque chose qu'effectivement on demandait. Alors 50 euros, tout le monde va nous dire, c'est même pas la moitié d'un plein pour l'année, mais concrètement, entre rien et 50 euros, ben on a pris les 50 euros. Voilà. Allez, ouais, je laisse la parole à Annabelle.
Juste un instant avant de laisser la parole à Annabelle, c'est que effectivement, on a bien conscience que 50 euros ne couvrent pas du tout les frais supplémentaires qu'a engendré la hausse du carburant. Ça, c'est clair et net, mais bon. Comme disait Stéphane, c'est mieux que rien. Mais une nouvelle fois, si vous bougez pas, faut vraiment prendre conscience que vous êtes vraiment les maîtres du jeu. Donc en votant aux élections, quand il y en a, et elles seront en 2027, ou c'est ça, fin 2027.
En décembre 2027.
Et puis la grève. Voilà. Mais je vais laisser la parole à Annabelle.
Merci tout le monde. Oui, bah en effet, bah je plus sois à l'idée de toute façon que quoi qu'il arrive, pour obtenir quelque chose, on le voit bien donc historiquement dans l'entreprise Iliad, qui est quand même une entreprise avec des bénéfices records à chaque fois, donc ils sont toujours en augmentation. Eh bien, à chaque fois, tout ce qu'ils nous proposent, c'est quand même des miettes. Hein, et nous, on a cette expérience-là, en effet, sur les centres, puisque depuis des années, on a quand même subi des inflations assez importantes et les augmentations n'ont jamais suivi cette inflation. Donc oui, ce qui sera important, c'est en effet de se lancer dans un rapport de force, comme dit Sylvie Lagrève, parce que ce sera le seul moyen d'obtenir quelque chose, parce que sinon, en effet, ils nous proposent, comme ce qu'ils nous ont proposé là dans les centres, donc sur Paris et sur Bordeaux et sur Marseille, ils avaient proposé pour les conseillers multimédia, les conseillers relations abonnés, ils nous appellent les CRA, donc ils nous avaient proposé 20 euros brut par mois, ce qui faisait donc 16 euros net à peu près, et d'augmentation. Et puis sur Paris, ils leur avaient proposé 10 euros brut d'augmentation, ce qui fait à peu près 8 euros, prétextant que sur Paris, ils avaient déjà la prise en charge des transports en commun qui étant plus importante, le pass Navigo étant assez coûteux, que du coup cela était de leur proposer 10 euros brut, c'était compensé par le fait qu'ils avaient plus sur les transports. Donc du coup, donc c'est en effet des miettes hein, par rapport au chiffre d'affaires d'Iliade. Sur Bordeaux, ça a été signé par certains syndicats, ce qui fait que sur Bordeaux, ils ont eu l'augmentation. Et sur Paris et sur Marseille, les syndicats n'ont pas signé, y compris nous sur Marseille, des syndicats qui d'habitude signent les accords. Et là, ils n'ont pas voulu, y compris notre élu cadre. Oui, parce que ce que j'ai oublié de vous dire, par contre, excusez-moi, c'est qu'il y avait une différenciation aussi. Il y avait donc pour les conseillers, de base, hein, c'était 20 euros brut par mois. Et pour les managers, les responsables d'équipe ou les supports métiers, c'était en revanche 1,5%, qui faisait à peu près une fourchette de 40 euros par mois. Donc là, y compris, ça a quand même aussi, y compris choqué les cadres, de faire une différenciation entre les conseillers et les managers, parce qu'on subit tous l'inflation de la même manière. Donc voilà, ça a été refusé. Alors la situation, c'est vrai que par rapport à ce que vous aviez expliqué, c'est que nous, c'est sûr que au niveau du salaire de base, on est quand même encore un peu au-dessus quand même du SMIC. On a sur les centres des moyennes d'ancienneté qui sont quand même plutôt de 10, voire de 10 ans, voire plus, hein, souvent, beaucoup plus. On a encore, nous, sur Marseille, des personnes qui ont 15 ans, 20 ans d'ancienneté. Donc, c'est vrai que les salaires de base, hein, le salaire de base, en plus, hein, parce qu'il y a la rémunération globale avec la prime, plus du salaire de base, donc c'est un peu plus élevé que le SMIC. Voilà. Mais au vu de la situation aussi globale, de ce qui se passe sur les centres, les syndicats, nous, en tous les cas, sur Marseille, la majorité ne s'est pas sentie de signer ces accords, ces propositions qui semblaient à tous quand même assez indignes.
Pour compléter un petit peu, si Annabelle, tu peux nous expliquer comment est structurée votre rémunération, puisque chez nous, on a vraiment, si on prend l'exemple des techniciens conseils, ils ont une part variable qui peut être très élevée, puisqu'ils peuvent avoir en variable 700, 800, voire 1000 euros de variable en plus de leur salaire de base. Alors, est-ce que vous avez une part qui est aussi importante du salaire, ou est-ce que c'est quelque chose qui est beaucoup plus mesuré?
Alors, on peut même avoir plus, hein, du coup, hein, beaucoup plus. Alors, c'est vrai que donc sur la rémunération de base, on est, je dirais, en moyenne sur une fourchette entre 1500 et 1600 euros, cela dépend de l'ancienneté. Et après, en fait, sur les primes, jusqu'à présent, avant d'avoir les primes à l'acte, qu'aujourd'hui, donc on est tous avec des primes à l'acte, on avait des primes maximum de 870 euros brut. Et aujourd'hui, en fait, maintenant que tous les services sont avec des primes à l'acte, on peut avoir des primes qui dépassent 1200, voire là dans mon service, il y a une toute petite minorité de salariés qui ont pu avoir 2000-2500 euros de primes pendant une courte période, parce qu'ils ont vite révisé les prix unitaires pour pouvoir baisser ces primes. Mais c'est vrai qu'on a un certain nombre de salariés qui peuvent avoir des primes assez importantes, mais ça reste minoritaire. Ce qui fait qu'en moyenne, en général, En réalité, si on prend tous les services confondus, on est sur une moyenne de prime entre 600 voire 800 euros. Voilà, entre 600 à 800 euros. Ce qui veut dire aussi que finalement, avec des primes assez élevées d'une partie des salariés, il y en a certains qui sont pour beaucoup bien en deçà, donc entre 300-400 euros de primes mensuelles.
D'accord. Et là, tu parles bien en brut pour bien comparer.
Je parle
avec
en brut.
Nous.
Voilà, je parle bien en brut. Hein. Oui, tout à fait. Oui.
Et par rapport à des salariés qui sont avec une ancienneté plus élevée, en fait, il n'y a pas une énorme différence sur les salaires de base, en fait.
Alors, ça peut dépendre un petit peu des contrats, parce qu'il y a eu toute une situation de rachat. Il y a eu beaucoup de rachats de sociétés, ce qui fait que certains avaient des contrats spécifiques, donc ils peuvent avoir des salaires de base plus élevés, mais en moyenne, en tous les cas, on est dans cette fourchette entre 1500 et 1600 euros. Voilà.
D'accord. Parce que nous, en fait, la problématique qui s'est posée sur les anciens techniciens itinérants, qui étaient là depuis la création de Protelco, c'était que quand il a fallu passer sur proxy ou faire des propositions pour transférer, en fait, les salaires qui étaient proposés en proxy faisaient qu'il y avait un décalage énorme entre les salaires de base qu'ils avaient déjà par rapport à ce qui était proposé sur des postes de coordination ou ce genre de choses. En fait, oui. Ils ne gagnaient pas plus d'argent le fait de passer coordinateur par rapport à rester simple technicien, quoi, tout en ayant des contraintes opérationnelles qui étaient tout autres et entre guillemets, beaucoup plus d'emmerdes, quoi, pour parler oui. crûment, quoi. Donc, c'est ça, en fait, parce qu'il y a forcément une optimisation, une harmonisation qui va se créer et je crains que ça se fasse au détriment de certaines personnes quand la fusion aura été effective, puisque si on a des systèmes de rémunération différents, des systèmes de salaires de base différents, mais entre guillemets, groupes niveaux identiques dans la convention collective, j'ai peur qu'ils appliquent une certaine harmonisation au détriment de certains salariés, quoi.
Oui, il est fort probable qu'en effet, on arrive sur une harmonisation vers le bas. C'est une question qu'on s'est posée, parce qu'on s'est vrai qu'on s'est dit à un moment, ils nous proposaient des augmentations. Alors, c'est vrai que pour anecdote, c'est vrai que là, nous, chaque année, donc la CGT sur Marseille, on demande des augmentations, non pas en pourcentage, mais des augmentations par indifférencié. Ah bah alors, donc, et du coup, là, cette année, je dis, on a fait ce que vous demandez. Enfin, sauf que nous, on demande pas 20 euros brut. On demande beaucoup plus. Mais du coup, là, ce qu'il y a, c'est que c'est vrai que les augmentations qu'ils ont proposées sont très basses. Alors, certainement parce qu'ils avaient aussi la préoccupation de se dire que, finalement, quand on va être fusionné, nous, sur les centres, nos salaires de base sont finalement plus élevés. Juste pour imaginer cela quand même, puisque donc sur les centres on a quand même un certain nombre de salariés qui peuvent être intéressés par des mobilités externes, des mobilités internes dans le groupe, puisqu'il y a cette GEPP. Eh bien, ça c'est arrivé que finalement quand ils postulent à un autre, notamment à FreePro à côté, que le salaire de base d'un salarié de Certicall soit plus élevé. Bien plus élevé que quelqu'un de FreePro à côté avec un poste plus élevé. Voilà. Donc il y a cette disparité finalement sur les salaires de base et les rémunérations variables également, qui fait que il y a certainement une préoccupation de l'entreprise d'essayer de niveler et plutôt vers le bas. Puisque là, en tous les cas, FreePro à côté, quand nous, ils ont proposé sur l'entité de FreePro, une des filiales de FreePro qui est prédictive, quand ils nous proposaient des postes, la rémunération globale, donc j'entends avec salaire de base et prime annuelle, donc la rémunération annuelle était plus basse que ce que nous touchions sur cet article Marseille.
Ouais, c'est un peu le problème qu'on a eu quand ils nous ont demandé d'aller au réseau, fut une époque où ils voulaient pas de nous parce qu'on leur coûtait trop cher.
Voilà.
C'est à peu près la même chose, quoi. Et, voilà. Et toi, tu parles de Marseille, mais est-ce que sur Bordeaux et sur Paris, il y a les mêmes problématiques en termes de rémunération? Parce que si on prend Centrappel, ils ont des anciennetés vraiment plus élevées, eux.
Oui, mais ceci dit, il y a beaucoup de salariés qui ont des grosses anciennetés, mais il faut sur Centrappel, il y a quand même aussi des salariés qui sont pas si anciens que ça, hein, quand même, hein, parce que En tous les cas, pour y être allé, il y a quand même aussi un bon nombre de jeunes, en fait, quand même. Hein. Donc, mais après, c'est vrai que, étant donné qu'il n'y a plus le turnover naturel, parce qu'au final, bien, il n'y a plus de remplacement, c'est vrai que là, les anciens restent quand même majoritaires sur, globalement, sur les trois centres. C'est D'accord. ceux qui sont restés, hein, qui se sont.
Donc, ceux qui sont encore là, tu veux dire.
Voilà, ceux qui sont restés, qui n'ont pas lâché, quoi. Voilà.
Là, on a beaucoup parlé rémunération. Maintenant, au niveau de l'accord temps de travail, je crois que vous avez une spécificité qui est historique par rapport justement aux différents rachats qui a eu lieu sur Marseille. Et on avait soulevé un petit peu dans nos revendications cette liberté que vous aviez. Si tu peux nous en dire un peu plus.
Ah, alors attends, dis-moi, parce que là, parce que cette année, nous, sur l'accord temps de travail, il n'y a eu aucune proposition.
Non, mais par rapport à l'existant que vous avez, qui fait que vous avez une certaine liberté au niveau des horaires, est-ce que c'est quelque chose qui est généralisé? Est-ce que c'est certains services?
Tu veux dire le choose my planning?
Ah, oui, ça, exactement, ah, tu as le bon terme.
Voilà.
Je déteste le mot anglais.
le planning à la carte.
Voilà.
Voilà, si tu
Donc, ça, c'est quelque chose qui est généralisé ou c'est vraiment que certains services qu'ils ont.
Non, c'est généralisé. Ça a été mis en place après l'arrêt du télétravail et c'est généralisé à tous les services.
D'accord. Et tu peux nous en dire un peu plus pour que tout le monde soit au courant sur ce sujet?
Alors, ce planning à la carte permet aux salariés de choisir leurs horaires dans la couverture en tous les cas d'horaires, c'est-à-dire que si on doit faire une ouverture de service ou une fermeture, on ne peut pas changer cela. Donc on est obligé, par exemple, pour l'ouverture de venir à 8h ou la fermeture de finir à 19h. Mais après, si on respecte en tous les cas cette ouverture, cette fermeture, on peut choisir tous les horaires qu'on veut. Donc, je vais vous donner un exemple pour que ce soit plus concret et plus parlant. Ça permet à quelqu'un qui commencerait, qui aurait une ouverture à 8 heures, de faire tous les jours cette ouverture à 8 heures, mais par exemple de faire 8 heures, 18 heures le lundi, 8 heures, 18 heures le mardi, et ensuite de finir beaucoup plus tôt les trois autres jours, de finir à 14 heures, de faire 8 heures, 14 heures, voilà. Ça permet aussi de faire des semaines de 4 jours, ça permet, y compris même, voilà, je vous ai donné l'exemple de finir deux jours tard, de faire des grosses journées, des trois petites journées, mais ça peut être aménagé comme on le souhaite, voilà.
D'accord. Et après, il y a une décision qui est prise. Comment? C'est les managers qui décident de savoir si tu peux faire tel ou tel planning ou c'est vraiment, il y a une liberté.
C'est le salarié qui choisit. À partir du moment où il respecte sa fermeture et son ouverture, c'est le salarié qui choisit. Et tout cela est envoyé à la vigie, hein, à la planification, qui vérifie si tout est OK dans ces critères-là. Et voilà, il n'y a pas de validation autre, voilà.
D'accord. Donc on peut comprendre en ayant ces informations-là que les plannings tournants imposés au free proxy du travail les samedis et le dimanche n'attirent pas forcément beaucoup de salariés, quoi.
C'est ça, tout à fait. Voilà.
Donc on peut mieux comprendre.
Surtout que ce planning à la carte, du coup, a été confirmé. En tous les cas, il serait pérennisé. Jusqu'à la dernière heure. Enfin, voilà.
D'accord. Bon, eh bien, je ne vais pas te questionner encore plus longtemps. Je ne sais pas si Cham, Sylvie, Lionel, vous aviez des questions pour faire des petits points d'infos comme ça qui peuvent être intéressants pour les salariés de Protelco.
Moi, j'ai pas du tout de questions parce que c'était super clair. Non, sérieusement. Et en plus, on peut voir la différence en fait au niveau des conditions de travail qui existent chez vous, enfin dans les centres d'appel et sur les proxys. Et je sais pas, ça pourrait peut-être permettre à la direction de réfléchir un petit peu, quoi, pour que les choses se passent au mieux. Peut-être laisser plus de liberté aux salariés et gérer ça autrement que ce que c'est géré actuellement. Mais ça, c'est une aparté, voilà.
Mais ça, tout à fait. Je rebondis sur ce que tu dis, Sylvie, c'est que ça, c'est juste ce choose my planning est justement très très apprécié. Et avec toute la situation globale de l'entreprise qui crée quand même un sentiment d'insécurité, de comment dire, une ambiance un quelque peu délétère, au final, en fait, ce choose my planning rattrape un petit peu toute la situation parce que les gens, ils se disent, bah, si j'ai plus mon, ça a été l'inquiétude avec la, avec l'annonce de la fusion, de se dire, bah, après la fusion, si on n'a plus les choose my planning, eh bien, ça change tout le quotidien des collègues et au final, bah, ça a permis quand même à beaucoup de pouvoir mieux s'arranger dans leur vie quotidienne.
Bon, eh bien, on va peut-être pouvoir passer, si vous n'avez plus d'autres questions, pour harceler Annabelle. Elle va plus revenir, hein, du coup. Hein. parler des autres négociations en cours, donc sur ce premier semestre. Alors, nous avons eu effectivement une négociation dont vous avez tous découvert l'aboutissement, puisque c'était le Up2Burn qui a été mis en application suite au versement donc de la prime d'intéressement, puisque comme vous l'avez pu le comprendre et le voir, et ça Sylvie souhaitait qu'on revienne sur le sujet, la participation n'a pas été versée cette année. Pourquoi ? Bah parce que tout simplement, et c'est vrai que c'est très difficile à comprendre quand on n'est pas dans le chaudron pour voir un petit peu ce qui s'y passe, puisque nous, on nous envoie des communications comme quoi tout est bon dans le meilleur des mondes et que nous avons des super résultats. Mais on parle bien de résultats européens, c'est-à-dire en fait des résultats qui englobent l'Italie et la Pologne en plus de la France. Et il s'avère que notre accord en vigueur, qui était la dernière année où il était appliqué sur de comment on déclenchait l'intéressement auprès des salariés, stipulait que les résultats France et uniquement de la France devaient être à minima égal à 95% de l'année précédente. Et malheureusement, cette année, suite aux investissements qu'il y a eu et aux amortissements qui ont été effectués d'un point de vue comptable, nous étions passés à moins 15%. Et donc, du coup, l'accord en lui-même n'était plus, ne déclenchait plus le versement d'un intéressement sur les résultats. Donc, pour être très simple, ils ont mis en place cette prime de partage de la valeur, pas en remplacement parce qu'elle n'est pas égale et elle n'est pas basée sur les mêmes éléments, mais c'est quelque chose qui vient en partie compenser d'un point de vue recette ou rémunération sur l'année, mais ça reste quand même quelque chose qui était attendu de par l'ensemble des salariés. Et je pense que, au vu des augmentations qui nous ont été proposées et de l'inflation qu'on a depuis le début de l'année, s'il n'y avait pas eu cette opération-là, je pense que nous aurions pu très facilement mobiliser d'un point de vue social parce que c'était quand même très dur pour beaucoup. Donc, l'abondement plus la prime de partage de la valeur plus la participation aux bénéfices que nous avons obligatoirement de par les résultats que nous avions obtenus fait que je n'ai pas spécialement beaucoup entendu de grogne, à part bien sûr quelques personnes qui, et à juste titre, trouvaient que les rétributions n'étaient pas suffisantes. Mais malheureusement, c'est le principe même de l'accord qui avait été signé il y a 3 ans, qui conditionnait à certains pourcentages de masse salariale à se répartir en fonction d'objectifs atteints. Donc, je ne sais pas si, mes camarades, vous avez quelques questions sur le sujet ou si, Sylvie, tu voulais compléter par rapport à ce que tu avais pu entendre comme interrogation.
Alors Stéphane, non, c'est simplement que j'ai eu beaucoup de salariés qui se posaient beaucoup de questions là-dessus et j'ai rien d'autre, rien à dire de plus que ce que tu as dit.
Alors ben, c'est bien parce que comme ça va nous faire une transition sur cet événement, puisque comme je voulais l'annoncer, l'accord d'intéressement s'est terminé et a eu pour effet donc la dernière année sur l'année 2025. Donc, nous sommes actuellement en renégociation de cet accord. Donc, il y a des éléments qui sont en cours. Donc, on a fait pour l'instant qu'une seule réunion avec un petit peu les orientations. Alors, nous, à la CGT, nous avons été relativement directeurs puisque nous avons fait des propositions dès la première réunion que nous avons transmise donc à la direction du groupe, puisque nous souhaitions améliorer la façon dont le déclenchement était fait sur cette négociation, donc sur cet intéressement, à savoir que nous voulions un indicateur social. Mais je vais laisser parler Hicham parce qu'il a beaucoup travaillé sur le sujet et il fait partie du groupe de négociation. Et comme je n'aime pas tout parler que tout seul, même si on me le dit que je le fais souvent. Donc Hicham, si tu veux en parler, ça serait bien. Comme ça, ça permettrait de dire un petit peu les orientations que nous avons demandées auprès de la direction.
Donc on a parlé de l'indicateur parce que l'indicateur a été uniquement sur le MIT courant France, hein. Ça concerne pas les entités par exemple Italie reste. Donc ah bah voilà, tu vois Stéphane. D'accord, elle est venue me voir. Pardon, excusez-moi. Donc, on a demandé la modification du critère de calcul de l'accord qui repose uniquement sur le BIT, courant France. C'est une unité financière complexe, peu transparente pour les salariés, dépend des choix comptables du groupe. L'intégration des critères opérationnels, à titre d'exemple, croissance, abonnés, objectif RCE, sécurité au travail, une répartition équitable par rapport à l'intéressement. Qu'est-ce qu'on a demandé d'autre? On a demandé quoi d'autre? Ah oui, les absences, et ça, de protéger les absences. Certaines absences sont assimilées à des temps de présence, maternité, paternité, arrêt de travail, accident de travail. Mais ce qui n'est pas pris en compte, c'est-à-dire les arrêts maladie classiques, congés, apparemment paternité l'ont intégré, ce n'était pas le cas avant. C'est ça ce que j'ai noté en gros. Je ne sais pas si c'est bien audible.
Pour compléter ce que vient de nous expliquer Hicham, ce qu'il faut retenir, c'est que en fait, on a un indicateur qui va déclencher un pourcentage de distribution sur la masse salariale. Aujourd'hui, on a un indicateur qui est 100% financier et nous avions demandé lors de l'ouverture de la négociation à ce qu'on intègre une part sociale dans le calcul. Et on voulait que, en cas de maladie ou en cas d'absence non sollicitée par le salarié, en gros, c'est pas une absence congé sabbatique ou ce genre de chose, quelque chose qui venait d'une demande du salarié, que ça soit retiré puisque c'était distribué de façon proportionnelle à son temps de présence. Ça, c'est des choses qu'on a demandé pour rendre la distribution de ces profits de façon plus équitable. Nous, lors de la première réunion, des pistes nous ont été données par la direction. La prochaine réunion de cette négociation est demain et on espère bien pouvoir orienter sur des répartitions et surtout des montants de masse salariale qui soit plus conséquent, c'est-à-dire des montants maximum, puisque on a effectivement dans la presse ou dans les actualités, dans les JT, des entreprises comme Volkswagen qui versent 12 000 euros de participation à leurs salariés. On a aussi d'autres entreprises, même françaises, qui annoncent des chiffres très importants par salarié. Et nous, notre accord que nous avions, ben en fait, il était bloqué à un certain niveau qui faisait que intéressement et participation, ben ça ne dépassait pas un salaire. Et il était plus facile pour un cadre qui a un versement de participation aux bénéfices proportionnel à son salaire de toucher un montant plus élevé puisque l'intéressement, comme le demandait Hicham et comme le précisait tout à l'heure, il est versé de façon en fonction de sa présence. Donc, ça voulait dire que quelqu'un qui était présent toute l'année, qu'il ait un salaire de cadre ou un salaire de technicien, bah, il touchait la même chose. Donc, ça, c'est des points qu'on a essayé de déplafonner Pour l'instant, ben, c'est des demandes, ça reste à l'état de demande puisqu'on n'a pas encore de retour de ce qui a été vu, accepté ou écarté par la direction. Et ben, ça sera peut-être dans une prochaine communication où on pourra en parler. Mais pour l'instant, c'est pas encore arrêté. Donc, je ne sais pas si Lionel, vous aviez des éléments complémentaires ou des interrogations sur le sujet. Annabelle, par rapport à ce qui a été discuté sur ces points-là au niveau des centres d'appel, est-ce que c'est un sujet ou est-ce que c'est quelque chose qui, entre guillemets, en fait, ils le prennent et ça s'arrête là?
Alors, oui, bah, ça a été un sujet. Maintenant, c'est vrai que la PPV, qui d'abord avait été initialement présentée comme faisant suite à aux bons résultats et non pas à l'absence d'intéressement, a ensuite été présentée sur les centres comme un remplacement à l'intéressement. Donc au final, comme chacun a eu à peu près, un petit peu moins quand même que ce qu'on avait eu l'année dernière, ça a d'une certaine manière un petit peu apaisé les tensions potentielles sur les centres, d'autant qu'il y a tellement d'autres sujets que finalement celui-ci, c'est un petit peu passé, je dirais, aux oubliettes par rapport à tous les autres sujets.
Secondaire.
Voilà, c'est passé de manière secondaire par rapport à tous les autres sujets qu'on peut avoir sur les centres. Voilà. Mais malgré tout, je pense que c'est quand même important de pouvoir expliquer le mécanisme parce que c'est quand même un mécanisme qui est assez peu transparent quand même pour la plupart des salariés qui est dit
c'est le moins qu'on puisse
voilà hein. Et puis y compris parce que nous en CSE on a quand même aussi plusieurs fois demandé à avoir d'avoir les chiffres hein, parce que bah ça c'est quelque les enfin en tous les cas le non-versement de cette prime d'intéressement, c'est en fonction des chiffres. Et donc ça, on a quand même demandé, on nous a dit que, et on a eu un retour négatif. Et voilà, donc malgré tout, quand même, je pense que le problème de la transparence, c'est essentiel. C'est de toute façon un des problèmes essentiels sur ce que nous, on ressent hein, sur les trois centres, hein, par rapport à l'avenir des centres, par rapport à l'incertitude. Et puis là, finalement, ça se rajoute hein, à tout le reste. Voilà.
Oui, donc du coup, tu vois, tu me fais penser parce que c'est vrai que ça fait partie de nos revendications qu'on a envoyées, c'est d'avoir de la transparence sur justement la communication des chiffres pour qu'il n'y ait pas cette défiance au niveau des salariés en disant ils ont maquillé les chiffres pour qu'on touche à rien. Et donc ça fait partie de nos demandes. Alors je sais pas si ça va être accepté ou pas, mais concrètement l'intérêt c'est que il y a une transparence sur l'annonce des résultats et sur le déclenchement ou non, puisque bien sûr, c'est des paliers hein, qui sont en fonction des résultats qui sont donnés. Et ça permettra, comme tu le dis, d'avoir une meilleure compréhension vis-à-vis des salariés, parce que c'est quelque chose qui est vraiment très obscur. Et je l'admets fortement. Quoi.
Oui, d'autant que à chaque fois, en fait, tout ce qui nous est annoncé, on a des communications quand même régulières. Hein, de Thomas Reynaud et tout ce qui nous est annoncé est toujours positif en augmentation. Donc c'est vrai que ça pose aussi quand même beaucoup de questions à la majorité des salariés hein, qui se disent comment c'est possible finalement.
Ouais, c'est sûr. Mm. Et ben, si on a fini sur le sujet de cette négociation en cours, et ben nous allons pouvoir passer à une négociation suivante. Alors là, elle intéresse surtout moi, puisque malheureusement, nous n'avions pas une représentativité suffisante au niveau du groupe pour avoir plus de représentants CGT sur cette négociation. Donc la négociation en question, c'est une mise en place d'un comité d'entreprise européen. Donc avec nos amis polonais et italiens. Alors, je vous le cache pas que c'est plus une obligation légale de l'employeur de le mettre en place que réellement un intérêt pour cette instance qui a motivé cette négociation par rapport à la direction. Et il faut savoir que historiquement, cette négociation a été ouverte il y a à peu près 4 ans de mémoire. Qui avait eu une première réunion qui a été un fiasco total puisque vous le comprendrez bien qu'il y a la barrière de la langue puisque Il faut pouvoir dialoguer, il faut pouvoir proposer, il faut pouvoir interpréter. Et donc, du coup, elle a vite été abandonnée ou mise en jachère, entre guillemets. Et de par les obligations de résultats, elle a repris courant février. Et il s'avère que là, ça a été un peu plus professionnel en termes de mise à disposition, puisqu'il y a eu le droit à avoir des interprètes et un système qui permet de dialoguer dans sa langue natale et de pouvoir être compris de l'ensemble de la délégation. Et il s'avère que on a vite compris que les objectifs de la direction Iliad étaient de remplir ses obligations et de ne surtout pas aller plus loin que ce que lui imposait le légal, on va dire ça comme ça. Donc, la CGT a été forte de propositions tout de suite, c'est-à-dire que nous avons construit un accord en rapport avec le légal actuel, mais surtout par rapport à la nouvelle directive européenne qui va faire de grosses modifications, mais qui n'est toujours pas transposée dans le droit français, mais qui va l'être incessamment sous peu, et donc du coup qui permet d'avoir des moyens et des obligations vis-à-vis de l'employeur sur ce sujet du comité d'entreprise européen. On est tous d'accord que la direction ne l'entend pas de cette oreille et que concrètement, la direction ne souhaitait pas s'orienter sur des choses contraignantes qui ne lui étaient pas encore imposées. Et nos amis polonais ont eu la décision et nous ont proposé de faire appel à un expert qui ne nous avait pas été proposé dans le cadre de la négociation, qui nous a permis, entre guillemets, d'éclaircir certains éléments et surtout de, comment dire, simplement de prendre une direction par rapport à ce qui se faisait au niveau européen dans des structures et des sociétés de notre taille. Donc, nous avons presque repris la négociation de zéro à partir de la quatrième réunion, ce qui est un peu dommage. Et pour tout vous dire, malgré expert qu'il était, nous aboutissons à des demandes qui sont quasiment toutes refusées par la direction. Et une dernière réunion doit avoir lieu donc au mois de juin, puisque la deadline pour la signature de l'accord, c'est fin juin de cette année. Et donc, il y a de très fortes chances que les positions étant très éloignées entre ce que souhaite le groupe spécial de négociation et de ce que est prêt à accepter la direction d'Iliad, nous arrivions à un PV de désaccord ou à un accord à minima qui n'aura aucun effet sur cette instance et n'aura aucun moyen, juste pour l'anecdote, parce que je pense qu'elle matérialise tellement bien le fonctionnement. La direction d'Iliad nous offre 6 heures de délégation par membre du comité d'entreprise par an pour l'ensemble des tâches qui incombent au comité d'entreprise. Ça démontre un petit peu la non-volonté de faire marcher cet organe qui pourrait être intéressant afin de harmoniser entre guillemets les pratiques aussi bien en Italie, en Pologne et en France et d'obtenir entre guillemets des choses qui soient intéressantes pour l'ensemble des salariés européens. Donc je ne sais pas si vous avez quelques commentaires sur le sujet, mais c'est-à-dire que concrètement, l'organe est à créer, comme on a créé en France les CE à une époque et maintenant les CSE. Sa fonction est de générer des éléments qui regroupent à minima deux pays, donc soit Pologne, soit Italie avec la France ou les deux dessus. Et c'est tout ce qui est sujet de fusion, tout ce qui est sujet d'acquisition, tout ce qui va être sujet important qui, au niveau européen, intéresse deux pays. Donc, c'est vrai que ça peut paraître très technique en termes de finalité de l'organe. on peut l'assimiler, si tu veux, à ce qui est ce qu'est le comité de groupe français, mais à un niveau européen qui intéresse deux pays. Je ne sais pas si c'est très clair pour tout le monde, mais c'est un petit peu ça, comme organe qui va, entre guillemets, permettre d'avoir une influence sur les prises de décision du groupe, en fait, tout simplement.
Eh ben voilà, t'as perdu Sylvie.
Je sais pas si ça répond à ta question.
Ouais, moi, j'aurais surtout des questions, hein, Stéphane. C'est-à-dire parce que tu parles, c'est assez vague. Je pense que ceux qui nous écoutent savent peut-être pas concrètement de quoi vous discutez, quoi.
Alors, je vous l'accorde, on va pas s'éterniser sur le sujet puisque c'est quelque chose qui est en fait relativement technique, mais qui peut avoir son importance au vu de l'actualité française qui ne concerne que la France, il est vrai, mais imaginons que dans un proche avenir, des velléités d'acquisition européenne de groupes ou de télécoms ou d'éléments qui auraient une incidence sur plusieurs pays, si on n'a pas d'organe qui vient, entre guillemets, influencer les prises de décision ou à minima de prendre connaissance des conséquences qu'il pourrait y avoir sur notre vie, nous, au niveau France, je pense que c'est quelque chose qui nous ferait subir des choses sans en avoir vraiment une possibilité d'interagir, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez.
Je sais pas, moi, je suis assez terre à terre. Je vois déjà le comité de groupe qui prend de l'importance dans le groupe chez Iliad et que du coup, je crois que les différentes entités, on ne pourra plus négocier grand-chose, peut-être encore les NAO, et encore, vu que c'est eux qui nous filent l'enveloppe. Enfin bon, bref, donc c'était juste un petit commentaire en passant.
Donc, après cette période comité d'entreprise européenne, nous avions une négociation qui rejoint ce qu'exactement Sylvie vient de nous dire. Il faut savoir qu'à Protelco, on a énormément d'accords qui ont été signés depuis la création de Protelco. Et entre autres, nous avons un accord QVT et égalité homme-femme qui nous avons depuis longue date et qui est intégré alors à chaque renégociation des éléments, des améliorations et des choses spécifiques que nous avions dans notre entreprise. Il faut savoir que cet accord, il est pour une durée déterminée, donc de 4 ans, et que au niveau du groupe, beaucoup d'entreprises faisant partie du périmètre du comité de groupe dont on vient parler, n'avaient pas de tel accord. Et donc, la direction d'Iliad a décidé de négocier un accord qui s'appliquera à toutes les entreprises qui n'ont pas d'accord ou celles qui ne souhaitent pas renégocier leur accord pour bénéficier du ou de l'accord de groupe. Je ne sais pas si j'ai été très clair, mais ça a pour une conséquence que les entreprises qui n'ont pas d'accord en bénéficient d'un, et donc là c'est plutôt positif, mais pour les entreprises comme la nôtre, qui avions un accord qui était travaillé depuis des années, a régressé dans les avantages et les acquis que nous avions obtenus de longue haleine depuis de nombreuses années. Et Sylvie, donc tu es venue début d'année, donc février-mars, négocier et participer avec Céline, qui est pas là aujourd'hui, mais qui avons œuvré sur cet accord, que nous n'avons pas signé pour la simple et bonne raison, c'est que nous perdions énormément d'acquis spécifiques à Protelco et que d'une manière ou d'une autre, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, si consigne était donnée au DRH d'entité de ne pas aboutir à un renouvellement ou à une signature d'accord, on était de facto obligé de profiter, si c'est le bon terme, de subir, je dirais plutôt, l'accord qui était négocié au niveau du groupe et de perdre de nombreux acquis. Donc moi, c'est le sentiment qui ressort vraiment, et c'est un peu ce que Sylvie décrivait tout à l'heure, c'est qu'on a de plus en plus d'accords qui sont négociés au niveau groupe, mais ils sont tous à minima, c'est-à-dire qu'on perd énormément d'acquis de par nos accords que nous avions pu avoir au niveau de chaque entreprise. Je ne sais pas si Annabelle, toi qui es là, si tu as eu ce type d'accord déjà signé pour ce qui concerne Marseille, ou si vous avez dû entre guillemets, expliquer ces nouveaux accords qui peuvent s'appliquer à vous.
Non, alors non, par rapport à ces accords, non, sur Certicol, nous, on n'a pas re-signé un nouvel accord. C'est ça ta question?
La vraie question, c'est est-ce que vous aviez un accord QVT et égalité homme-femme? Et
ah oui.
Quand est-ce qu'il s'arrête, entre guillemets, quand est-ce qu'il est à renégocier? Et s'il est déjà arrivé en fin de validité, c'est celui du groupe qui de facto s'applique à vous, quoi.
Ah oui, non, je pense que c'est non. Nous, on n'avait pas d'accord, hein, QVT égalité homme-femme. Non, non. Donc, ça voudrait dire qu'on serait dans la situation, ce serait cet accord là qui serait appliqué pour nous, du coup.
Enfin, exactement.
Sauf si fusion, de toute façon, avec Protelco, voilà.
Dans tous les cas, effectivement, l'accord Protelco il perdure jusqu'à l'année prochaine en termes d'application. Mm. Mais si la velléité est de ne pas renégocier pour aboutir, renégocier, ils ont l'obligation, mais aboutir à une signature, c'est pas une obligation non plus. Mm. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui, pour nous, on a fait un petit bilan la semaine dernière, on perd énormément de cette opération-là, quoi. Donc, alors, c'est vrai qu'ils ont repris des éléments que nous avions dans notre accord, mais ils ont enlevé la grosse teneur, en fait, de ce qu'ils nous apportaient, des spécificités oui. Par rapport à Proxy, par rapport à tout un tas de choses, quoi. Donc voilà, donc ça c'est un point qui a surveillé et qu'on ne manquera pas de revenir vers vous de façon à batailler pour obtenir et conserver nos acquis que nous avons entre guillemets obtenus après de nombreuses négociations. Je ne sais pas si mes camarades Hicham et Lionel avaient des sujets sur ce point-là, s'ils avaient déjà aperçu quelques points négatifs.
Non, là, j'ai rien de relevé ce particulier.
Donc, tout à l'heure, Annabelle nous a fait une petite présentation des problématiques qu'avait eu leur accord GPP qui s'appliquait sur les centres d'appel par rapport aux conséquences que ça pouvait avoir sur leur avenir. Il faut savoir qu'au niveau de Protelco, et là, on est bien sur le sujet en ce moment, puisque nous allons faire le nécessaire pour obtenir l'ouverture de notre accord GEPP. Pourquoi? Parce que tout simplement, notre accord s'est terminé le 7 mars. Je recommence parce que c'est le 7 avril de mémoire. Ah, c'est ce que j'ai dit, hein, la semaine dernière, je sais plus. Ah, c'est avril, hein. Alors, on recommence, quoi. Donc, notre accord GEPP que nous avions depuis 3 ans est arrivé à terme depuis le 7 avril de cette année, ce qui veut dire que malgré les obligations légales de notre employeur de rouvrir les négociations par le Code du travail et sur l'accord cadre qui régit nos négociations, il n'a pas été rouvert la négociation sur notre GEPP, donc on peut considérer qu'actuellement nous sommes dans l'illégalité. Et surtout, au vu des mutations et des transformations de nos métiers qui ont lieu, aucun accompagnement n'est possible puisqu'il n'y a pas d'accord de gestion prévisionnelle des emplois et des parcours professionnels, ce que veut dire la GEPP. Mais concrètement, c'est quelque chose qui rajoute, entre guillemets, de l'incertitude, comme on en parlait tout à l'heure avec Annabelle, et c'est quelque chose qui, pour moi, est primordial pour que les salariés qui ont des velléités d'aller dans le sens positif de la société, d'évoluer ou de changer de voie, de passer de technicien à peut-être manager, à peut-être encadrant, voire même tout simplement conseiller, il n'y a plus d'éléments qui permettent de faire des validations d'acquis avec des compléments comme c'était prévu dans l'accord, de faire des formations, de faire de ce genre de choses de façon encadrée et accompagnée parce que tout simplement, les corps n'existant plus, il ne produit plus ses effets. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on va revenir très rapidement puisqu'il me semble que dans cette perspective de changement, c'est un des accords les plus importants qu'une société comme la nôtre doit avoir et surtout permet de vraiment accompagner les salariés dans les changements que l'on subit actuellement, quoi. Nous rappelons quand même juste au passage qu'il a été annoncé ce week-end que le groupe ou les groupes vont se partager SFR et que cela peut avoir des grosses conséquences sur nos métiers et sur nos postes, tout simplement. Parce que qui dit rachat dit concentration et optimisation. Et ça, je pense que parmi vous, il n'y en a aucun qui va me contredire sur le sujet. Donc pour moi, c'est quand même un sujet qui est très important et qui doit absolument être pris en compte au niveau de Proteco ou de notre future entité Free Assistance. Bon, eh bien, après avoir abordé tous ces sujets aussi vastes qu'ils soient, il est grand temps de se laisser, parce que je pense que vous devez commencer un petit peu à en avoir marre de nous écouter. Nous vous souhaitons une bonne fin de journée. Je vous souhaite un bon week-end pour ceux qui vont l'écouter juste avant le week-end, en espérant que cela vous intéresse et qu'on réponde à toutes vos questions. Allez, bonne fin de journée.
Bon, au revoir à tout le monde, bonne soirée, bon week-end en effet pour ceux qui écouteraient en fin de semaine. Et du coup, peut-être à bientôt avec la fusion. J'en profite juste pour dire aussi à tous les collègues qui seraient dans la région sud-est qu'on a un groupe WhatsApp dans lequel on a déjà pas mal de collègues des proxys. Et donc voilà, on a un petit lien pour s'y connecter, un petit QR code. Donc voilà, tout le monde est bienvenu dans ce groupe, hein, parce qu'on a les collègues de Certicall et de Protelco. Voilà.
Bah, écoutez, je vais vous souhaiter aussi une bonne fin de journée, bon week-end, enfin bref, le meilleur. Je pense que si on n'a pas répondu à toutes vos questions, n'hésitez pas avec ma vie pro de nous remonter vos interrogations. On y répondra rapidement. On est toujours joignable, hein. Vous avez nos coordonnées un petit peu partout maintenant. Enfin, je pense que vous les avez sous le coude, en tout cas pour les anciens qui nous écoutent. Et puis à très vite pour la suite.
Pour finir, je vais juste insister sur un point pour les collègues qui nous écoutent, que la CGT n'est pas opposée par principe aux évolutions de l'entreprise. Nous, on veut juste s'assurer que ces évolutions soient transparentes, équitables, compatibles avec la santé et les conditions de travail, tout simplement. Donc, et sur ce, on continuera à porter vos questions et à vous tenir informés. Je vous dirai à bientôt et à très vite. Au revoir.
Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée, un bon week-end aussi si vous nous écoutez en fin de semaine, une bonne soirée, une bonne matinée en fonction de l'heure. Et puis à très bientôt, j'espère.
Tu bosses chez Free, t'as le sourire au proxy, mais des fois t'aimerais juste un peu de répit. Les forfaits mobiles, tu en rêves la nuit. Et l'abonné dit, j'ai pas de réseau ici. T'étais tranquille grâce au télétravail. Maintenant c'est terminé, ciao bye bye. Le dimanche t'assures, tu es souvent là. Mais les primes du mois, c'est pas toujours ça. Écoute le Protelcast, pose-toi, prends ton café. On n'est pas des tarés, c'est juste la CGT. Un groupe bien soudé qui a décidé de t'aider. Et si t'es en galère, tu peux nous contacter. N'hésite pas, fais-le avant d'être déconnecté. Multitâche, t'es kitty, fibré ADSL. Ton dos fait la gueule, mais ton GPS t'appelle. T'as fait 100 bornes pour des pannes, une pitéo. C'était une box 4G, ça prime presque zéro. Et dans le brouillard à 10h derrière un buisson, y'a peut-être ton CETI qui se croit en mission. Mais t'inquiète pas, c'est vraiment pas pour te piéger, il est juste là pour t'aider à mieux travailler. Écoute le Protelcast, pose-toi, prends ton café. On n'est pas des tarés, c'est juste la CGT. Un groupe bien soudé qui a décidé de t'aider. Et si t'es en galère, tu peux nous contacter. N'hésite pas, fais-le avant d'être déconnecté. Écoute le Protelcast, pose-toi, prends ton café. On n'est pas des tarés, c'est juste la CGT. Un groupe bien soudé qui a décidé de t'aider. Et si t'es en galère, tu peux nous contacter. N'hésite pas, fais-le avant d'être déconnecté.